matin et bienvenue sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Vous écoutez le lendemain de la veille pour ce lundi, le 8 février. Et nous partons, comme d'habitude, d'un bon pied avec Ramon Vitesse et sa chronique BD. Bon matin, Ramon, comment tu vas?
Très bien. Je ne sais pas s'il fait soleil, puisqu'on prie en registre, mais en tout cas, moi, je suis ensoleillé.
On est ensoleillé dans le futur.
En ce moment, en tout cas, dans le studio maison, il fait vachement soleil, c'est éblouissant. En tout cas, on s'en souhaite pour aujourd'hui, mais on verra bien rendu là. Aujourd'hui, ce que je propose, c'est de poursuivre la liste des meilleurs BD 2020 pour la section roman graphique stupéfiant d'audace. Rien de moins. Alors voilà, ouvrez grand vos esgourdes, auditrices, auditeurs de ces KUT, sortez un crayon, gribouillez quelques fers cadeaux à votre bibliothèque publique de façon à partager votre enthousiasme à lire des livres qui autrement seraient peut-être un peu raides pour votre porte-monnaie. Il y a certaines BD qu'on aime vraiment chérir, qu'on aime mettre sous l'oreiller ou encore laisser traîner partout dans la maison jusqu'à un musée de couvert. On a quelques titres que je vais passer quand même tambour battant en essayant de ne pas aller en profondeur puisqu'on en a déjà parlé au cours de 2020, mais mérite un petit regard dans le rétroviseur. Le premier de ceux-ci, La femme sauvage, c'est de Tom Tirabosco, publié Sauvage déjà banté, c'est un titre qui me titillait. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une femme qui est enceinte d'une petite fille, vraiment sauvage, parce que le monde a tourné. On est un peu dans un truc post-apocalyptique, mais très naturaliste par contre. Alors, va vivre avec une géante, va vivre un peu, je pourrais dire que c'est certainement des accointances avec l'univers queer, tout ça, et c'est une bande dessinée qui vibre de sincérité, de recherche d'harmonie entre deux personnes. Et au finish, cette petite fille va larguer les amarres, va quitter sa mère pour se lancer dans un monde lui-même sauvage, à l'instar de cette femme sauvage, titre de Tom Tirabosco, publié chez Futuropolis. Tom Tirabosco, cette histoire vraiment forte qu'il nous propose à nouveau, sont très charbonneux, sont très grossiers et vraiment un trait qui, un qui lit un livre de Tom Tirabosco, risque de revenir à la bibliographie de cet auteur-là pour un graphisme qui est très enraciné, très terrien avec ce côté charbonneux. Un autre bouquin, La mort détective. C'est un livre du français David B. qui est publié ici cette fois au Québec chez l'éditeur Pampard. David B., il faut le dire d'emblée, c'est un rêveur. Un rêveur qui cauchemarde en plus. La mort détective, c'est une histoire abracadabrante, un peu affolante, qui pourrait rappeler des personnages, un personnage donc un peu horrible, mais qui veut un peu un reflet de notre monde, mais en parallèle. Donc, La mort détective, un livre en format italien, donc sur la largeur, petit livre, très belle édition de ce Québécois, Pampard. Un autre bouquin. Ah, celui-ci, on va plonger dans l'adolescence. Dans une adolescence d'une mère qui, elle, est un genre de cosmonaute du futur et elle va partir, pas pour une année, pas pour deux ans, pour l'éternité. Donc, c'est ses derniers moments avec son garçon qui va lui faire faux bond en plus. Alors, ça s'intitule comme livre, justement en anglais, bien que ce soit en français. C'est publié chez Dargo et les auteurs sont Thomas Cadden. C'est la première collaboration de ces deux auteurs-là qui, de part et d'autre, ont des livres solo vraiment remarquables. Donc, l'intérêt de ce bouquin-là, mais peut-être par trois. Alors, Soum, ça nous amène dans un monde contemporain, un monde futuriste, dans lequel il y a des scories de l'ancienne société, des gens qui vivent en marge de cette société future, propre, tout est beau. Alors qu'on combat un virus, c'est quand même assez intéressant de voir ce livre-là qui fonctionne de façon duelle. C'est plutôt monochromatique, c'est un dessin vraiment enlevant. C'est un livre qui amène aussi des éléments philosophiques à travers le futurisme. Ben et Benjamin Adam, publié chez Dargo. Un autre beau bouquin, qui celui-ci a été publié au Québec par un duo d'auteurs anglais à l'origine. Le livre en français s'appelle Opératique. Mais que diable est-ce que l'opératique? J'avoue que je suis sorti du livre maintenant dans ce livre-là. C'est la relation qui s'installe entre un professeur de musique vraiment audacieux qui propose à ses étudiants de découvrir la musique par le biais d'une chanson qu'ils vont découvrir et interpréter. MacLear et Byron Egan Schiller. C'est publié chez La Pastèque, ici donc au Québec. Et c'est un livre qui nous amène dans un point un peu morne et terne, mais parfois aussi sur le plan créatif et sur le plan, je dirais, bondissant, on est aux prises avec l'adolescence. Opératique, un titre à retenir également. Toujours chez l'éditeur La Pastèque, une adaptation d'une pièce de théâtre sur l'exploitation de pauvres hères pour vendre des homards qui vont chercher dans les provinces maritimes et qui ramènent au Québec et qui pourrit littéralement dans un camion qui n'est pas frigorifique dans lequel ils doivent mettre de la glace. C'est une histoire définitivement débilitante d'un type qui joue un peu le caïd dans son village et qui propose cette espèce de deal à deux types. Ça s'intitule « Pour réussir un poulet ». C'est Paul Bordeloup, le dessinateur scénariste, en fait, qui adapte la pièce de théâtre de Fabien Lier chez La Pastèque. Une autre histoire de femme, une histoire de super-héroïne, une histoire qui est vraiment résonante et qui nous amène un peu dans la créativité, dans le cheminement créatif d'un auteur. Ça s'intitule « La femme papy Michel Coulon et Grégory Mardon » et c'est publié chez Futuropolis. Dans cette femme papillon, peut-être ajoutée pour ceux qui étaient dans Black Lives Matter, il y a vraiment matière d'intérêt puisque cette super-héroïne est non seulement une femme, mais elle est également un peu l'alter ego de cet homme qui peut-être voit-il son côté féminin. C'est une histoire qui est multiple. La femme papillon, un très beau livre à lire, un dessin nerveux qui, en plus, vient nous chercher au plus profond avec son nez très développé. Pour s'achever, un peu d'amour. C'est le titre du livre, mais c'est ce que je nous souhaite à toutes et à tous. C'est de l'Olden, qui est définitivement un pape de la BD underground, qui tranquillement a su influencer l'édition mainstream française. Lewis, on le connaît, entre autres, pour avoir fondé l'association. Et c'est ici même qu'il publie ce livre, Un peu d'amour. Un peu d'amour, c'est spécial. C'est un de ses livres de Lapineau. Donc, on est dans un peu un alter ego des histoires de Walt Disney avec des animaux qui sont les protagonistes. Mais la comparaison s'arrête là. Ici, on est dans des réflexions tout azimut avec un itinérant qui écrit ses mémoires du trottoir, mais qui veut rester anonyme. Lapineau a maille avec lui, l'aide à publier, et le Un peu d'amour a une autre particularité, c'est qu'il est complètement réalisé en comic strip, c'est-à-dire en petite bande dessinée d'une ligne, de trois suites. Les comic strips donnent un album complet de 40 quelques pages. Alors voilà, Un peu d'amour de Lewis Trondheim, publié chez La Société. On est content d'avoir dressé cette liste des meilleures BD 2020. Je vous propose une musique que Tamara va nous faire tourner ici, 2.3 FM, au lendemain de la veille, bien sûr. Cette musique, elle est due à un groupe, en fait, qui est un genre intéressant. C'est son deuxième album. Il s'appelle « Mon doux Seigneur ».« Mon doux Seigneur », attention, le Seigneur porte un A et neuf qui saigne. Et l'album s'intitule « Horizon ». C'est publié sur Grosse Boîte.
Fois, t'étais to blow, and I just when the war becomes a hoe. Shake it out of will, the hunted world where it never shows. I don't wanna go. Steal it for me.
Bonjour. Vous écoutez La politique en question, le balado du département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Dans chaque épisode de cette nouvelle série balado, nous nous entretenons avec des professeurs, chercheurs et praticiens qui nous aident à repenser le monde et la politique. Bonne écoute.
Bonjour, je me présente, Marc Tremblay-Faulkner. Je suis étudiant au doctorat au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Dans ma thèse, je m'intéresse à l'utilisation du discours scientifique par les groupes d'intérêt dans les forums de politique publique. Je m'intéresse notamment au Bureau d'audience publique sur l'environnement. Et plus largement, ce qui m'intéresse, c'est la question de l'usage des connaissances scientifiques en démocratie. Je suis en compagnie d'Éric Montpetit, qui est mon directeur et professeur au département de sciences politiques. Bonjour.
Bonjour, Marc.
Toi aussi, Éric, le lien entre sciences et démocratie est central dans tes recherches et ça fait partie de ta réflexion depuis le début de ta carrière universitaire.
Effectivement.
Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage?
Oui, tout à fait. En fait, cette préoccupation pour le rapport entre science et démocratie est là depuis ma thèse de doctorat. Ma thèse de doctorat portait sur la pollution d'origine agricole. Les recherches suivantes que j'ai faites ont porté sur les OGM. Je me suis après intéressé à des enjeux tels que les sols contaminés, changement climatique, l'énergie. Puis même récemment, je me suis intéressé au vapotage. Ce sont tous des enjeux. Tous les enjeux que j'ai couverts depuis ma thèse de doctorat ont porté sur des sujets qui exigent des connaissances scientifiques et donc qui exigent la participation des scientifiques dans les processus d'élaboration. Puis même s'il s'agit évidemment de sujets où on peut difficilement se passer des connaissances scientifiques et donc des scientifiques, ça soulève cette participation, cette omniprésence des scientifiques, un certain nombre de questionnements qui ont alimenté, informé mes recherches au cours des dernières années. Je vous en donne juste quelques-unes. Par exemple, je me suis intéressé à savoir si les scientifiques qui participent au processus d'élaboration des politiques publiques, ce sont les bons scientifiques, ceux qu'on souhaiterait vraiment voir là. Et la raison est que tous les scientifiques n'y participent pas. Donc, comment est-ce qu'ils sont choisis? Comment est-ce qu'ils sont sélectionnés? Ça, c'est une question qui a alimenté plusieurs de mes recherches. Je me suis intéressé aussi à l'utilisation des connaissances scientifiques par les acteurs politiques, puis à leur manipulation possible pour favoriser les intérêts, évidemment, de ces acteurs politiques. L'utilisation des connaissances n'est pas manipulée en quelque sorte, je me suis néanmoins intéressé à la question à savoir si les scientifiques eux-mêmes utilisent leur influence pour avancer leurs propres intérêts plutôt que l'intérêt de la collectivité. Mmh. Donc, c'est le genre de questions qui ont alimenté mes recherches ces dernières années. Il y en a une qui, en fait, est moins une question qu'une grande difficulté dans ce type de recherche, c'est de savoir qui est un scientifique et qui n'en est pas un. Et en fait, la raison de cette question est assez simple, c'est qu'il y a plusieurs acteurs qui se réclament de la science. Il y a des groupes d'intérêt qui emploient des scientifiques. Et donc, la question est à savoir si avoir un titre universitaire, être un universitaire, suffit à donner de la crédibilité ou donne davantage de crédibilité aux participants à l'élaboration des politiques publiques plutôt que des scientifiques qui seraient associés à d'autres types d'organisations, dont les groupes d'intérêt. Je pense d'ailleurs, Marc, que tes recherches, toi, contribuent beaucoup à élucider cette question. Peut-être que tu pourrais nous en parler un petit peu.
Oui, effectivement, établir la distinction entre qu'est-ce qui est scientifique de ce qui ne l'est pas, c'est parfois difficile à faire. Dans mes propres recherches qui portent sur les audiences publiques du BAP, j'analyse quelles sont les stratégies utilisées par les groupes d'intérêt pour essayer d'influencer la prise de décision. Et parmi ces stratégies, l'utilisation de connaissances scientifiques, donc le fait de relayer des connaissances déjà existantes est importante. Le fait même de produire des données maison par les groupes d'intérêt et aussi une autre pratique. Puis, ce qu'on constate, c'est que les groupes d'intérêt peuvent participer au débat public en produisant de l'information qui est utile à la prise de décision. Et cette information-là est utile pas nécessairement parce que c'est une information scientifique, mais plutôt parce qu'elle permet d'éclairer différentes dimensions d'un enjeu, par exemple son acceptabilité auprès de la population, l'étendue des risques sociaux, par exemple, qui peuvent être associés à un projet. Et les groupes d'intérêt bénéficient d'un avantage qui est celui de la connaissance intime du milieu. Et dans ce sens-là, ils contribuent à façonner pour le mieux, la plupart du temps, les débats publics.
C'est intéressant ce que tu montres dans tes travaux. Puis ce que j'aime tout particulièrement, c'est que tu évites de considérer la science et la politique comme étant non seulement deux sphères qui sont complètement séparées l'une de l'autre, mais une qui serait davantage légitime que l'autre. On sait très bien que dans les sondages d'opinion, les scientifiques ont la cote par rapport aux politiciens. Donc, très souvent, on pourrait penser que à partir du moment où un scientifique s'implique dans un enjeu, sur un enjeu de politique publique, il vient en quelque sorte ternir sa réputation, il passe du côté du mal en quelque sorte. Je pense que ce n'est pas une bonne façon de voir les choses, qu'effectivement, il n'y a pas cette hiérarchie entre la sphère scientifique et la sphère politique. Il ne faut pas oublier que la sphère politique, c'est quand même le lieu, l'endroit où on produit nos politiques publiques. Si effectivement, c'est une sphère qui est dysfonctionnelle, qui ne mérite pas la confiance des citoyens, on a un sérieux problème. Alors, moi, ce que j'ai voulu montrer dans mes travaux, justement, c'est qu'on ne peut pas déconnecter les scientifiques du monde politique, du moins ceux qui vraiment veulent s'investir sur un enjeu de politique publique. Et ça, c'est quand même assez important. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que le scientifique et le politicien ont le même rôle dans la sphère politique ou lorsqu'un scientifique s'implique en politique publique. C'est-à-dire que le scientifique va fournir des informations qui vont aider à la décision. Mais rarement, ou je dirais même jamais, ces informations ne vont déterminer la décision. La décision demeure toujours une décision qui est une décision politique, en bout de ligne.
Oui, mais si on pense à toute la mobilisation actuelle très, très forte autour de l'enjeu des changements climatiques, on peut dire qu'elle vient essentiellement des découvertes des scientifiques. Donc, quel est le rôle que attribue aux scientifiques, dans le fond, dans le processus politique?
Ce qui est indéniable, si on ne peut pas dire que les connaissances scientifiques déterminent les choix politiques, on peut très clairement dire que les informations scientifiques ont un impact clair sur l'agenda politique. C'est indéniable. Je donne un exemple fictif. Supposons que demain matin, un groupe de scientifiques montrait que la pollution dans le fleuve Saint-Laurent est tellement importante que les poissons sont en train de mourir, c'est certain que les médias s'intéresseraient à l'histoire et c'est certain que les politiciens éventuellement s'y intéresseraient. Maintenant, ce n'est pas ces connaissances scientifiques-là qui viendraient dicter la décision, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y aurait des politiciens qui valorisent énormément l'environnement et qui viendraient dire il faut ralentir l'activité économique le long du fleuve Saint-Laurent pour diminuer la pollution. Mais il va y en avoir d'autres, des politiciens, qui ont des valeurs différentes et qui, eux, vont préférer maintenir le niveau d'activité économique quant à sacrifier l'environnement. Et d'autres se situeront entre ces deux positions un peu extrêmes en essayant de dire qu'on va essayer de protéger l'environnement tout en protégeant les emplois. C'est tous des positionnements qui sont légitimes d'un point de vue politique. Aucun d'entre eux n'est dicté par la science, mais évidemment, si un jour les politiciens ont ce débat, ça viendra du fait que l'enjeu a été mis à l'agenda par des connaissances scientifiques. En bout de ligne, là, ce qui est vraiment déterminant pour les choix de politique publique, ce n'est pas la science, ce sont les valeurs. Puis ça, j'ai voulu, avec notamment mon collègue Éric Lachapelle, montrer ça dans de nombreux travaux. On s'est intéressé à des enjeux très scientifiques, où les connaissances scientifiques sont incontournables, mais on a bien montré qu'à chaque fois, le facteur déterminant dans les choix, ce sont les valeurs et non pas ces informations.
D'accord. Si je me fais l'avocat du diable, on ne peut pas penser qu'il y a un danger dans ce cas-là, que chaque débat consiste à discréditer l'autre partie où chacun s'improvise un peu en tant qu'expert et qu'au fond, il n'y a pas vraiment de vérité commune. Autrement dit, est-ce que, pour reprendre une expression un peu à la mode, est-ce qu'on vit dans un monde de politique post-vérité?
Si on revient à mon exemple du fleuve Saint-Laurent pollué, les poissons qui meurent, c'est bien certain que les politiciens qui, eux, ne veulent pas sacrifier l'activité économique le long des berges, vont probablement essayer de discréditer les connaissances scientifiques qui sont utilisées par les adversaires politiques et vice-versa. Il va y avoir une espèce de polarisation du débat, une espèce de dynamique politique qu'on voit assez fréquemment. Je dis on la voit fréquemment, mais elle n'est pas si fréquente que ça dans l'univers des politiques publiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la très vaste majorité des enjeux de politique publique sont traités dans l'ombre. Et moi, les enjeux qui m'ont intéressé au cours de ma carrière, là, j'en nommais quelques-uns tout à l'heure, allant de la pollution d'origine agricole à la contamination des sols, ce sont des enjeux qui apparaissent de façon ponctuelle uniquement dans l'actualité. Ce sont des questions qui intéressent les politiciens uniquement de manière ponctuelle. Ce n'est pas des enjeux sur lesquels l'attention est très intense, l'attention est continue, en quelque sorte. La majorité des enjeux de politique publique sont comme ceux-là. Ça ne signifie pas qu'on ne s'occupe pas de ces enjeux durant les périodes pendant lesquelles on n'en parle pas dans les médias ou que les politiciens ne sont pas saisis de ces questions. Il y a des fonctionnaires, il y a des groupes d'intérêt, il y a des scientifiques qui, quotidiennement, travaillent à améliorer les politiques dans ces domaines. Et ils le font suivant une dynamique qui est très différente de celle qu'on a décrite là, tout à l'heure, là, c'est-à-dire un débat où un discrédite l'autre, où l'adversaire tente de gagner des points en montrant que les informations ne sont pas véridiques, etc. C'est une dynamique plutôt où on tente de rechercher les meilleures solutions pour améliorer les politiques publiques. Mm-hmm. Et ce que mes travaux ont montré au fil des ans, c'est que ça marche la plupart du temps. Je ne suis pas en train de dire que tout est fantastique dans l'univers des politiques publiques et qu'il n'y a aucun problème, mais globalement, ça fonctionne quand même assez bien. On arrive à améliorer les politiques publiques et j'en veux pour preuve les impacts que nos politiques ont eus au fil des 40 dernières années. Exemple tout bête, la pollution de l'eau, le fleuve Saint-Laurent, dans les années 60-70, est devenu interdit à la baignade parce qu'il était trop pollué. Depuis, la qualité de l'eau s'est améliorée de manière considérable grâce à des politiques environnementales et aujourd'hui, on revient à la baignade dans le fleuve Saint-Laurent. Ça, c'est juste un exemple. Il y a tout plein d'exemples comme ça de politiques publiques qui ont amélioré notre situation. C'est la plupart du temps ce qui se produit lorsque les enjeux sont traités dans l'ombre.
C'est intéressant. Parce que dans ta réponse, et depuis le début de la conversation, ce qui est notable, c'est que la dimension électorale, sans nécessairement être absente, elle est vraiment plus ou moins évacuée. C'est-à-dire que tu n'as pas fait référence aux élections, très peu aux partis politiques ou aux moments électoraux ponctuels. Et c'est comme si tu présentais l'image du processus politique comme celle d'un iceberg. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, tout ce qui est visible dans les médias, ce sont les débats partisans, les élections, donc la pointe de l'iceberg. Mais ce qui compte en réalité, c'est l'élaboration des politiques publiques qui se fait un peu en retrait. Tout ça se passe sous l'eau, dans le fond. Mais est-ce que c'est pas d'un point de vue démocratique un peu choquant ce que tu nous dis au fond? C'est-à-dire que est-ce que les décisions se prennent dans l'ombre?
La question est excellente parce qu'effectivement, là, dire aux gens comme ça que les acteurs font des politiques publiques qui vont avoir un effet sur eux indéniable, le font dans l'ombre sans que personne soit trop au courant. Donc, ça peut avoir ce caractère un petit peu inquiétant, si on veut.
Est-ce qu'on pourrait dire que d'un point de vue, selon une logique institutionnaliste, ce serait spécifique à notre système politique? Parlementaire au Canada, au Québec, qui est plus fermé, si on veut, que le système américain, par exemple?
Moi, je pense pas. Puis je pense pas, puis je dirais aussi que probablement que la situation est beaucoup moins inquiétante qu'il ne paraît, qu'il n'y paraît. Commençons par le premier bout, là. Est-ce que le Canada est particulier ou les systèmes parlementaires sont différents des systèmes présidentiels? Je ne crois pas, parce que la raison pour laquelle il y a des gens qui travaillent dans l'ombre sans devoir se soucier de ce que font les médias, de ce que font les politiciens qui sont au fond ultimement responsables de ce que ces gens-là font, la raison est une raison humaine. C'est simplement les limites cognitive. C'est-à-dire que un politicien, un journaliste a une capacité limitée à porter attention à des enjeux. Ce serait impossible pour un politicien à Ottawa ou à Washington ou à Québec de s'intéresser à tout ce qui se fait pendant une journée dans chacune de ces capitales. Ce serait tout simplement impossible parce que on travaille en continu sur les politiques publiques et donc sur l'ensemble des politiques publiques et le stock est juste trop gros pour qu'ils puissent s'intéresser à tout. Donc, ils font des choix, choisissent des enjeux. C'est vrai des journalistes aussi qui choisissent des enjeux à couvrir. Et donc, les autres enjeux restent dans l'ombre. Maintenant, il faut bien savoir, il faut bien comprendre que les acteurs politiques, ce ne sont pas les politiciens, encore une fois, c'est davantage des groupes d'intérêt, c'est davantage des fonctionnaires, des scientifiques, des experts qui travaillent dans l'ombre, ben, ces gens-là essaient d'éviter qu'on s'intéresse à eux dans une certaine façon et donc ont tout intérêt à bien faire les choses. Si un acteur politique dans un domaine s'inquiète de ce que font ses collègues, de ce que font les autres, il risque de sonner la clochette d'alarme. Et puis, bon, les journalistes pourraient commencer à s'intéresser à ce qui se fait dans ce domaine-là, puis éventuellement, les politiciens pourraient souhaiter intervenir. Et donc, encore une fois, les acteurs de l'ombre ont intérêt à faire en sorte que leur domaine reste dans l'ombre, et c'est la raison qui les amène à bien faire les choses, à faire des bons choix de politique publique, les meilleurs possibles. Donc c'est moins inquiétant au point de vue démocratique que ce qu'il ne pourrait y paraître, dans la mesure où, encore une fois, la structure d'incitatif fait en sorte que les acteurs font bien les choses.
D'accord, donc tout va bien, mais si les politiques publiques sont si bonnes, si bien façonnées, pourquoi est-ce qu'on constate un peu partout dans le monde occidental que les gens sont de plus en plus cyniques et méfiants à l'endroit des institutions politiques, des acteurs politiques et des politiciens?
C'est une excellente question. Je disais au tout début que ce qui est commun à tous mes travaux depuis le début de ma carrière, c'est l'enjeu de la science et de la démocratie. En fait, l'enjeu du cynisme est aussi beaucoup présent. Il était là dans mon premier livre, Misplaced Distrust, et il est là dans mon ouvrage plus récent qui est In Defense of Pluralism. À cette question, à savoir d'où provient le cynisme, j'ai une réponse qui est incomplète parce que je pense que la raison, l'explication, elle est multifactorielle. On ne peut la réduire à un seul facteur, mais je pense qu'il y en a un qui est particulièrement important. C'est les médias. La façon dont les médias parlent de la politique, je pense, incite au cynisme. Je ne suis pas en train de dire... Ce qui est problématique, ce n'est pas que les journalistes ou certains chroniqueurs puissent dire que le monde politique est un monde corrompu, un monde où les acteurs ne veillent qu'à leurs propres intérêts. C'est plus subtil que ça, le problème. Le problème, c'est que la façon dont on dépeint le monde politique dans les médias n'invite pas la confiance. Un exemple tout simple. On fait beaucoup appel depuis les 20-30 dernières années aux chroniqueurs dans les médias. Qu'est-ce que font les chroniqueurs? Ben, en gros, et là, je ne voudrais pas réduire ce que font tous les chroniqueurs à cette dimension, mais c'est quand même assez important. En gros, ce qu'ils font, c'est susciter l'indignation des gens.
Mm-hmm.
Ils le font parce que ça vend davantage de copies que de simplement informer les citoyens. Et donc, les journaux ont compris, puis on recourt davantage aux chroniqueurs. Un autre exemple, on a tendance à couvrir beaucoup plus les enjeux qui peuvent être dépeints comme étant conflictuels. Donc, c'est certain qu'un enjeu sur lequel les acteurs collaborent, réussissent à produire, à améliorer les politiques publiques, ça ne fait pas une très bonne histoire. L'histoire est beaucoup meilleure, beaucoup plus intéressante pour le lecteur, pour le public, le consommateur de médias, si on parle de conflit.
C'est ce que tu montres dans ton livre sur les biotechnologies, par exemple.
Absolument. Je montre que lorsque on s'intéresse, lorsque les journalistes s'intéressent à cet enjeu, ils ont tendance à prendre les points de vue extrêmes. Donc, les points de vue des acteurs qui sont fortement opposés ou les points de vue des acteurs qui sont fortement favorables à cette nouvelle technologie. Et donc, à présenter l'enjeu comme étant particulièrement conflictuel, alors que la réalité est très différente. C'est-à-dire que la majorité des acteurs se retrouvent entre ces deux extrêmes et eux, on ne les voit jamais dans les médias.
Oui, c'est très intéressant. Je trouve que tu es très dur à l'endroit des médias. Le portrait que tu dresses est assez négatif. On sait qu'actuellement, ils vivent une crise, notamment de financement. Il y a moins de revenus publicitaires. Est-ce qu'il y a une solution à trouver pour le sensationnalisme des médias? Est-ce que, par exemple, un financement public serait une avenue possible, souhaitable?
Oui, effectivement, je trouve que ce serait très intéressant. Puis, tu sais, Marc, c'est pas facile d'être critique des médias à l'ère de Trump. Parce que Trump lui-même est extrêmement critique et donc on a tendance à nous mettre dans le même camp. Or, c'est pas du tout le cas.
Ouais.
Je pense que, justement, à l'ère Trump, à l'ère des médias sociaux, à l'ère où c'est extrêmement facile de diffuser très largement toutes sortes d'informations, les médias conventionnels ont un rôle particulièrement important. Ce sont eux, en quelque sorte, qui filtrent l'information qui est pertinente pour la vie démocratique, pour que le citoyen puisse se faire une idée de ce que font, ce que proposent les différents partis politiques, de ce que font les gouvernants. C'est à partir de ces informations que les électeurs font un choix. C'est absolument fondamental pour la reddition de comptes en démocratie. Le rôle des médias, à mon sens, n'a jamais été aussi important. Ce que je dis, c'est qu'ils pourraient faire mieux, tout simplement. Puis peut-être qu'une façon de faire mieux, ce serait justement de leur garantir un financement plus stable. Le problème avec le fait que les médias sont des organisations commerciales aujourd'hui, c'est qu'ils courent après les revenus, en ont de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, et donc doivent prendre les moyens pour attirer toujours plus de consommateurs, ce qui fait en sorte que la nouvelle se transforme, devient de plus en plus sensationnaliste, met de l'avant encore une fois l'indignation, le conflit. Une façon, je pense effectivement, qui pourrait modifier les choses, ce serait de leur garantir un financement plus stable, financement public.
Très bien, très intéressant. Éric Monpetit, professeur au département de sciences politiques, merci d'avoir partagé tes réflexions avec nous aujourd'hui.
Merci, Marc.
Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec.
Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de famille sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
From New York, this is Democracy Now!
This war has to end. And to underscore our commitment, we are ending all American support for offensive operations in the war in Yemen, including relevant arms sales.
President Biden pledges to end U.S. support for the Saudi-led war on Yemen, describing it as a humanitarian and strategic catastrophe. But will the U.S. move actually end the six-year war? Plus, we look at whether President Biden will reverse Trump's recognition of Morocco's occupation of Western Sahara, Africa's last colony. But first, we go to Ethiopia to speak with the head of the African CDC. It's 4 years old today. As a South African variant of COVID-19 is spreading, African nations are racing to secure vaccines, but it could take months, if not years.
The continent recognizes that the global victory against COVID has to be guided by global solidarity because this is a global crisis and no country will be considered free of COVID if any country in the world is considered still has COVID infections.
All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, the Quarantine Report. I'm Amy Goodman. President Joe Biden pledged Thursday to end U.S. support for the Saudi-led war in Yemen, describing it as a humanitarian and strategic catastrophe. The war, which began 6 years ago and was supported by both Presidents Obama and Trump, has devastated Yemen, leaving at least 100,000 people dead. According to the United Nations, 80% of Yemen's 30 million people need some form of aid or protection. Biden's pledge came during a major foreign policy speech Thursday in which he vowed to get tough on adversaries like China and Russia while declaring America is back. We'll have more on Biden's foreign policy plan and the war on Yemen later in the broadcast. The United States reported more than 5,000 coronavirus deaths Thursday, a world record daily toll since the start of the pandemic. Daily confirmed cases continue to fall but remain stubbornly high with nearly 130,000 new infections over the most recent 24-hour period. On Thursday, Johnson & Johnson asked the Food and Drug Administration for emergency use authorization of its single-shot COVID-19 vaccine. In a large clinical trial, the vaccine prevented 85% of severe cases of the disease. There were no deaths. In Tampa, Florida, the NFL has set official attendance at the Super Bowl at 25,000 fans. 30,000 cardboard cutouts will fill the other seats. It will be the densest crowd of any pro football game since the start of the pandemic, raising fears the Super Bowl could become a super spreader event. A quarter of U.S. adults who responded to a Seton Hall sports poll said they were planning on gathering with people from outside of their household to watch the game, despite warnings from the Centers for Disease Control. Here in New York, Yankee Stadium is opening today as a max vaccination site in the Bronx, one of the poorest areas of the country, which has the highest COVID-19 positivity rate in New York City. Vaccinations for front